Bonjour et bienvenue sur Séoul Connect. Je suis Mathieu, le modérateur de ce podcast. Toutes les trois semaines dans Séoul Connect, nous allons à la rencontre d'un ou d'une francophone résidant en Corée du Sud. Ensemble, nous aborderons en toute transparence ses attentes, ses envies, ses réussites, ses échecs en Corée du Sud. Le prochain épisode commence très bientôt, juste pour moi le temps de vous rappeler de vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Sachez aussi, très peu le savent, Google Podcast existe, c'est une application pour suivre vos podcasts préférés, dont Séoul Connect, sur tout appareil Android. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Séoul Connect. Je suis en compagnie de Marion Lee Polezello. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour, merci à toi de m'avoir invité.
Alors Marion, tu habites depuis un certain temps en Corée. Je te propose de te présenter rapidement, puis tu pourras ensuite nous parler de tes expériences.
Alors, je m'appelle Marion Lee Polezello, j'ai 32 ans et je suis originaire des environs de Béziers, en Occitanie. Je suis actuellement traductrice littéraire coréen-français et je suis mariée depuis 4 ans en Corée.
Ok, marié depuis 4 ans en Corée, mais qu'est-ce qui t'a un peu amené toi en Corée? Ça fait combien de temps que tu y es par exemple?
Ça fait depuis 2014 avec des petits allers-retours en France pour les changements de visa. Et à la base, c'était, je pense que comme beaucoup d'autres personnes, quand j'étais adolescente, j'étais un peu dans cette vague sur le Japon. Tu sais, bon, animé, manga, etc. Et quand il y a Internet qui s'est développé un petit peu et qu'on a commencé à avoir Dailymotion, ce genre de site Internet, on avait des recommandations de musique ou de vidéos sur notre page d'accueil. Et il y a une chanson coréenne qui s'est affichée un jour. Et par curiosité, j'ai cliqué. J'ai bien aimé. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à la Corée, que ce soit la musique ou les films en général. Et après, je faisais des études qui n'avaient rien à voir. Et quand je suis partie en échange pour mes études, j'ai rencontré des Coréens à la fac. Et on est devenus un peu amis. Bon, amis, je sais pas, parce qu'on n'est plus en contact maintenant, mais à la base, on était un peu amis. Et pareil, j'ai rencontré d'autres Coréennes quand j'étais à Lyon, après, pour d'autres études. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, je suis partie en voyage en Corée. Enfin, je suis venue, du coup, pour moi, en voyage en Corée. Et j'ai beaucoup aimé, puis j'avais envie de revenir. Et voilà, quoi, ça s'est fait un petit peu comme ça, à la base. Et j'ai expliqué un peu plus tard ce qui s'est passé, comment je suis arrivé exactement après mon voyage, mais voilà.
Ok, mais donc aventure plutôt douce, découverte et intérêt grandissant, un petit peu de fil en aiguille, sans précipitation.
Tout à fait, voilà, donc, ça s'est pas fait d'un coup.
Ouais, puis découverte via les études, parce que c'était traductif, tu sais que les études avaient rien à voir, donc tu faisais quoi quand même? À la base, tu te dirigeais sur quel parcours?
Ah, en fait, moi j'ai fait un bac S et donc je faisais un DUT qui s'appelait à l'époque Services et Réseaux de Communication. Donc c'est de la com et du multimédia en gros. Et j'ai fait mes deux années de DUT, puis j'ai fait pour la troisième année pour la licence pro, j'ai fait un échange en réseau et télécom en Irlande. Et dans ma fac irlandaise, il y avait des Coréens. Et c'est qu'après cette fac, enfin cet échange dont la spécialité ne m'intéressait pas du tout, que je me suis dit est-ce que je pourrais pas changer de domaine, faire autre chose, apprendre autre chose. Et puis j'avais toujours beaucoup aimé les langues, et ayant cet attrait envers le Japon puis la Corée, je me suis dit pourquoi pas apprendre les langues asiatiques. Et donc je suis partie à Lyon pour apprendre le japonais et le coréen. Le japonais en majeur, le coréen en option le soir, une heure par semaine ou deux heures par semaine, je sais plus. Et c'est comme ça que ça m'a mené petit à petit jusqu'en Corée. Au niveau des études, c'était ça.
Très intéressant, c'est cool ça. Donc quand même partir étudier le japonais pour pour faire de la traduction en japonais et finir en Corée.
c'était pas pour être traducteur. En vrai, je savais pas, même pas. À la base, je savais même pas trop où je voulais aller quand je faisais ces études-là. Je le faisais juste parce que ça m'intéressait. Je m'étais pas vraiment posé plus de questions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le japonais ne me sert pas et j'étais pas très forte en plus. Donc, je t'avoue que c'était pas mon point fort. Et mais aujourd'hui, je suis plutôt contente d'avoir fait ce choix-là parce que si j'avais pas commencé à apprendre le coréen à Lyon un petit peu, je serais jamais venue en vacances ici et j'aurais jamais rencontré déjà mes amis coréennes à Lyon et puis j'aurais jamais fait tout ce parcours jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait un bon choix finalement.
Oui, c'est vrai, effectivement. Et donc, du coup, comment a été fait ton parcours Est-ce que t'as appris un petit peu de coréen, vu que si tu faisais un peu qu'une heure par jour ou deux par jour au Japon, qu'est-ce qui t'a amené à... Quel a été ton chemin pour finir traductrice? Est-ce que t'as fait ça directement Comment ça s'est passé?
Non, mon niveau était très très basique de coréen à l'époque. Et du coup, pendant la licence en LEA, en troisième année, on a la possibilité de faire un échange. Et je me suis dit, j'ai déjà fait un échange en Irlande, pourquoi pas faire un échange en Corée? Bon, même si ma majeure était le japonais, voilà. Et en fait, ça s'est pas bien passé parce que justement, j'étais pas très forte en japonais, donc mes notes étaient pas fabuleuses, j'avais pas un dossier parfait. Et donc, l'échange a pas été accepté. Et moi, je me suis dit, tant pis. Si je suis pas accepté en échange, je vais faire un prêt étudiant et je vais partir toute seule. Et donc, j'ai fait un prêt étudiant et je suis venue en 2014 en m'inscrivant pendant 6 mois dans un institut de langue universitaire ici, à Yonsei. Et voilà, pour apprendre le coréen un peu plus, de façon un peu plus poussée que ce que j'avais fait en France. Et donc, j'ai fait 6 mois à Yonsei. Ça m'a pas trop plu non plus. Parce que je pense que c'est le système des cours qui me plaisait pas à Yonsei. Bon. Et donc après, je suis revenue en France, travailler un petit peu, puis je suis revenue en PVT, en Corée. Et pendant mon PVT, j'ai réussi à trouver un travail très rapidement. Un mois après être arrivé, j'ai trouvé un travail dans une entreprise qui faisait des logiciels de text-to-speech. Donc, c'est des logiciels qui permettent d'avoir une voix. Qui ressemble beaucoup à une voix humaine mais qui n'en est pas une et qui lit des textes, donc on peut écrire ce qu'on veut et puis la voix va permettre, par exemple, je sais pas, ça peut être une voix pour les personnes non voyantes, pour les transports en commun, ce genre de choses. Et moi, je m'occupais de faire la base de données du français, donc de la voix française, des voix françaises. Okay. Et voilà, donc j'apprenais au logiciel à parler français, mais c'est pas moi qui programmais, voilà, il y avait un programmeur, et moi je m'occupais juste d'expliquer les règles de prononciation du français au programmeur, pour que lui puisse les enseigner. D'accord. Au programme, voilà.
Ok, c'était pas l'enregistrement de toi, parce que j'étais parti pour te demander où est-ce qu'on pouvait te retrouver en France.
Non, c'est pas moi qui ai enregistré, puis c'est pas pour la France en fait. Okay. En fait, cette entreprise, donc elle crée ses voix, et ensuite ce sont d'autres entreprises qui peuvent aller acheter les voix dans les langues qui les intéressent pour les utiliser pour plein de raisons. En fait, je suis même pas sûr de toutes les raisons, de toutes les possibilités qui existent, mais voilà. Mais non, c'est pas ma voix, c'est des voix, c'est moi qui ai choisi les voix, c'est même moi qui ai choisi les prénoms des voix, donc je suis assez clair. mais ce n'est pas ma voix. Et puis de toute façon, je pense que ça aurait pas marché parce que j'ai un accent et ils voulaient un français très neutre, donc ça aurait pas fonctionné, voilà. Et ensuite, après, je suis restée, du coup, pendant tout mon PVT, j'ai travaillé dans cette entreprise en ALBA, enfin en part-time. Et puis à la fin de mon année de PVT, j'avais envie de rester. Et puis à l'époque, j'étais déjà avec mon mari. On n'était pas encore mariés, mais on était déjà ensemble. Et j'avais quand même envie de rester. Et puis voilà, je sais pas, je savais pas trop où j'allais, mais en même temps, j'avais quand même envie de rester. Donc je me suis dit, tant pis, il va falloir que je retourne à l'école alors. Donc j'ai refait un visa pour apprendre le coréen. Et par contre, cette fois-ci, je suis pas allée à Yonsei, qui m'avait pas plu. Je suis allée à Seoul National University. Et ça m'a beaucoup plu, au contraire. Donc Donc voilà, j'y suis restée tous les niveaux de coréen, je suis restée jusqu'au bout. En même temps, j'ai continué à travailler un petit peu dans l'entreprise de logiciels vocaux. Et à la fin de mes cours de coréen, je me suis inscrite en école de traduction. En école de traduction littéraire. Donc c'est précis, c'est pas de la traduction, par exemple, pour traduire des diplômes ou des papiers officiels. Je traduis vraiment des livres ou des produits culturels. Voilà, mais pas légaux. Voilà, je suis pas agréée pour être traductrice légale. Et voilà. Et après, j'ai fait mes 2 années donc d'école de traduction. Et après, je me suis lancée toute seule et je suis freelance maintenant. Je suis mon propre patron.
Ok. Donc, alors attends, du coup, il y a plein d'infos qui arrivent.
Oui.
Je vais essayer de les trier. à partir du moment où tu t'es lancée, t'as eu le job étudiant et après voilà, t'as vraiment directement commencé dans la traduction et tu y es resté. Sur ça,
oui,
on est
voilà.
D'accord. Ok. Et du coup, ça t'a fait à peu près combien de temps d'études si on prend juste à partir du moment où t'es allé dans la seconde université, t'as dit que c'était laquelle déjà, Seoul University, ça ?
Ah oui, à Seoul National okay. University. Je suis resté 1 an et demi à SNU et ensuite j'ai fait 2 ans d'école de traduction.
Ok, donc à peu près 3 ans et demi d'études pour
ouais.
Devenir bien, bien bilingue comme il le faut afin de pouvoir traduire de la littérature.
Voilà, disons que surtout à l'écrit. Moi, mon niveau est très, très scolaire, donc c'est très à l'écrit. C'est beaucoup à l'écrit, voilà. C'est pour ça que je ne suis pas non plus interprète. Hein. Donc, okay. Mon niveau oral est plus bas quand même que mon niveau écrit. Mais voilà, je traduis des romans, j'ai traduit des jeux vidéo, j'ai fait des sous-titres pour des émissions de télé, ce genre de choses.
Écoute, t'as traduit quoi ? T'as des noms ou tu...
Par exemple, jeu vidéo, le plus connu, c'est j'ai fait une partie de la traduction de Black Desert.
Ok, oui, c'est un gros truc.
Mobile, mais pas la version PC, la version mobile.
Okay.
Et après j'ai traduit des petits jeux qui sont pas du tout connus, donc je pense pas que les noms disent grand chose. Et après en roman, là en ce moment je traduis un web roman qui est très populaire, mais c'est très populaire chez le public féminin, peut-être que ça parlera à certaines. Ça s'appelle Ombre et Lumière et je traduis le tome 2 de ce roman puisque la traductrice du tome 1 ne pouvait plus continuer, donc c'est moi qui ai repris. Et puis je traduis des webtoons, voilà. C'est bon, ce que je traduis le plus, c'est quand même des webtoons, hein, majoritairement, parce que c'est là où il y a le plus d'offres, mais voilà, je suis pas bloqué sur ça.
D'accord. Intéressant. Avant qu'on passe sur un peu qu'on continue un peu cette partie professionnelle, sur la partie études, du tout, toi, qu'est-ce qui t'avait plutôt moins plu et qu'est-ce qui t'a plus intéressé entre Yonsei et Seoul National University ?
Alors, je sais pas si c'est parce que moi, mon état d'esprit a changé, parce que quand je parle avec des gens qui ont fait les cours de coréen à Yonsei, la plupart ressortent plutôt satisfaits, donc je sais pas si c'est moi ou voilà, mais j'avais l'impression que les profs de Yonsei étaient pas du tout investis, puis c'était les premiers niveaux aussi, et ils avaient à cette époque-là, ils avaient deux systèmes, c'est-à-dire que pour les Français ou les autres occidentaux qui ont des langues plus éloignées du coréen, ils avaient créé un parcours en 8 niveaux au lieu de 6. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 6 semestres, tu payes 8 semestres, au même prix, évidemment. Et,
business.
Voilà. Et un niveau de ce parcours-là équivalait à peu près à 3/4 du premier niveau, enfin d'un niveau de l'autre parcours qui était... celui-là réservé plutôt pour les Asiatiques, donc japonais, chinois, ceux qui avaient des facilités entre guillemets en coréen. Et moi j'ai pas du tout aimé ça, parce que je payais la même chose qu'eux, donc je voyais pas pourquoi je devais être dans un cours différent. Donc voilà, c'était une des choses. Et puis après, oui, je pense que j'avais aussi pas le bon état d'esprit à ce moment-là. J'avais juste envie de revenir en Corée, peut-être de m'amuser un petit peu. J'étais encore jeune, voilà. et puis finalement, quand je suis retournée apprendre le coréen, mais dans l'autre université, ben, j'avais un état d'esprit plus professionnel. En fait, j'avais envie de trouver un métier, de travailler après. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour, quoi, je suppose.
Ok. Ok. Non, mais c'est un point intéressant quand même. Évidemment, la réponse est subjective. Certains apprécient, certains
bien sûr.
Retournons du coup justement sur ça, sur la partie webtoon. Retournons sur cette partie webtoon et traduction. Tu fais du coup soumise à ouais, pas mal de webtoon. Enfin, déjà la demande en termes de pas forcément que de webtoon, mais en général de traduction de littérature coréenne vers du français. Moi, de ce que je vois des offres d'emploi, il y en a de plus en plus. Comment toi, tu le sens de ton côté ?
Il y en a de plus en plus, malheureusement. En fait, il y a un bon et un mauvais côté. Il y a de plus en plus d'offres, surtout de webtoon, majoritairement de webtoon, parce que c'est ce qui est en train d'exploser en France. Les gens s'y intéressent de plus en plus. Et tous les éditeurs ont envie un petit peu d'avoir leur branche webtoon. Donc ils s'y mettent un petit peu tous. Malheureusement, le fait d'avoir beaucoup d'offres de traduction, alors qu'on n'est pas tant de traducteurs que ça. Et quand je dis traducteur, je veux dire traducteur, soit traducteur qui a fait une école de traduction, soit traducteur qui a appris sur le tas finalement, mais qui avait déjà un excellent niveau de coréen et de français, parce qu'il faut aussi avoir un excellent niveau de français, et qui du coup s'en sort très bien. Mais en dehors, finalement, on est une petite communauté à faire partie de ces traducteurs-là, et on n'est pas assez nombreux pour accepter toutes les offres du marché. Et donc, les boîtes de traduction ont tendance à faire appel un peu à n'importe qui. Je ne vise personne spécifiquement, évidemment, mais en tout cas. Ça se ressent, surtout chez certains éditeurs, quand on lit les webtoons qui sont pas très bien traduits, où il y a beaucoup de fautes, où c'est pas très bien relu, il y a des faux sens. Mais ce sont des boîtes qui prennent un peu n'importe qui, souvent des étudiants qui ont besoin d'argent, je suppose. Et je conçois qu'en tant qu'étudiant, moi aussi, hein, j'avais mes petits jobs étudiants, j'ai travaillé au McDo et tout, donc je jette la pierre sur personne. Mais c'est vrai que du coup, ça fait baisser le tarif aussi du marché. Et donc nous, traducteurs officiels, on va dire, on n'est pas très bien payés après. On n'a pas beaucoup d'offres de traduction décentes. Voilà. On est un petit peu obligé de beaucoup trier. Donc il y a toujours des boîtes qui ne trouvent pas. Et puis c'est un cercle vicieux. Et ça tourne en rond un petit peu comme ça. Et voilà.
Ok. Ouais, et je pense qu'il y a une solution de sortie qui est pas mal utilisée. Parce que je vois un certain nombre d'offres qui sont quand même de l'anglais vers le français. Et pas forcément que du coréen vers le français, ça permet d'avoir quand même une plus grande quantité de personnes pour traduire.
Oui, mais, mais on perd en traduction. On perd en sens.
Oui, parce qu'il y a deux fois de changement de sens.
Voilà.
Je suis d'accord.
C'est faisable, évidemment, il y en a plein qui le font. Et puis tant mieux, ça donne du travail à d'autres personnes aussi. Mais ça reste quand même. Et puis, quand on traduit de l'anglais vers le français, ce sont deux langues communes. Enfin, on ne considère pas ça comme des langues rares, ce genre de traduction. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a des niveaux de langues, en fait. Comment dire par exemple, du coréen vers le français, on considère que c'est plutôt rare. Ça va être mieux payé techniquement qu'entre l'anglais et le français.
C'est tout à fait normal.
Voilà, en gros, c'est comme ça. Et donc, forcément, ceux qui traduisent de l'anglais vers le français sont censés être moins bien payés que quelqu'un qui traduit du coréen vers le français. Ce qui n'est pas toujours le cas en Corée, malheureusement. N'est pas toujours bien évalué non plus, en termes de tarifs.
Okay. Intriguant.
Voilà. Oui, c'est un peu spécial. J'ai appris aussi avec, en travaillant. Hein, j'ai appris au fur et à mesure.
Voilà. Ok. Et donc, toi, un épisode de webtoon, alors ils n'ont pas tous la même taille, donc on va me répondre que ça dépend des cas. Mais un épisode de webtoon, à peu près, ça peut prendre combien de temps à traduire comment ça se passe dans le processus?
Ça dépend des cas.
Merci, question suivante.
Non, mais je dirais qu'en moyenne, ça peut mettre... C'est compliqué à répondre à ça. Mais je dirais peut-être 2 heures. deux heures.
Okay.
Mais ça dépend vraiment. Enfin, ça dépend. Voilà, je vais essayer forcément la réponse bateau, mais ça dépend parce que ça dépend du style de webtoon, ça dépend de la longueur, ça dépend de l'entreprise pour laquelle on travaille et du client, parce qu'il y a certains clients qui demandent plus ou moins de choses à faire en traduction. C'est pas juste des fois un fichier Word avec notre texte écrit. Il y a d'autres choses à faire. Parfois, et donc voilà, tout accumulé, ça peut prendre deux heures, je pense, ouais.
D'accord. Sur les autres choses, ça peut être, par exemple, ils peuvent te demander de faire la mise en page directement dans le Photoshop ou...
Il y en a qui le font, voilà. Il y a des clients qui demandent ça, d'écrire directement dans les bulles avec Photoshop. Il y en a qui demandent à écrire sur Word avec une numérotation, donc il faut numéroter les épisodes avant. Chaque bulle, chaque texte à traduire doit être numéroté, puis ensuite avec le même numéro et les mêmes avec un code couleur, hop, on se retrouve sur le fichier Word. Il y en a qui ont leur propre logiciel, il y en a qui ils travaillent tous différemment, donc
okay,
faut
ouais,
s'adapter
donc, ouais,
à chaque
fois,
client.
Ouais, faut,
voilà.
Faut s'adapter. Et toi, du coup, à peu près, tu bosses pour combien de personnes Tu fais que la traduction ou tu es aussi sur la relecture? Comment ça se passe un peu
Non, je ne fais pas de relecture. Bon, je pourrais en faire, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, sinon, je fais que de la traduction. Et actuellement, là, maintenant, j'ai 3 clients. Mais ça change. Okay. Voilà, ça varie.
Ça varie de mois après mois.
Oui, voilà, c'est à peu près ça. En fait, ça dépend du nombre de séries que je traduis actuellement. C'est-à-dire, par exemple, si... ce que j'ai en ce moment me suffit pour avoir un salaire décent, je vais pas aller chercher autre chose. Mais si, ça dépend du temps que ça me prend aussi, est-ce que j'ai du temps pour moi, est-ce que je peux me permettre de me reposer aussi de temps en temps. Mais voilà, je travaille un petit peu au feeling comme ça, et si j'ai la sensation que je manque un peu de travail, hop, je fais appel à un client ou je dis à mes clients que je suis disponible pour travailler,
un projet.
Et puis c'est eux, voilà, et puis ils me proposent quelque chose.
Ok, parce que, enfin, je suis pas sur toutes les plateformes, mais j'ai l'impression que en France, les webtoons c'est chapitres par semaine. Du coup, toi, t'as combien de séries en cours de traduction? Et ça te fait à peu près combien d'épisodes, de chapitres à traduire chaque semaine?
Alors. Là, encore une fois, chaque client est un peu différent. Il y a des clients qui demandent absolument, qui demandent, je sais pas, deux épisodes par semaine pour chaque série, ou un épisode par semaine pour chaque série. Et puis, il y en a qui demandent tous les épisodes en tant de temps. Donc, il faut juste finir toute la série jusqu'à la date butoir. Par exemple, le roman que je traduis, c'est un chapitre. Enfin, c'est pas vraiment un chapitre, mais appelons-le un chapitre, toutes les deux semaines. Mais c'est pas le rythme de publication, c'est juste le rythme de traduction.
Ouais, parce que
après eux,
niveau,
derrière, ils font autrement peut-être pour la publication. Mais... Et puis des fois, il y a des séries qui sont en pause, parce que l'auteur est malade, parce qu'il a décidé de prendre des vacances. Et à ce moment-là, ben, nous aussi, ça nous met en pause. Donc on attend que ça revienne. J'ai une série qui est comme ça, qui est en pause, et depuis je sais plus combien de temps... Et... toujours pas de nouvelles, donc attends, voilà, et donc voilà, ça dépend toujours, c'est très très, en fait c'est très difficile, je trouve, d'avoir un emploi du temps stable quand on fait ce métier, parce que finalement, il y a des fois où on peut avoir des choses à traduire, à rendre pendant deux jours, et puis hop, on se dépêche, on y passe toute la soirée, ça m'est déjà arrivé de passer des nuits sur certaines traductions, parce que ben, j'étais très proche de la date butoir. Pas par choix, hein. Ouais, voilà, mais ouais, ça dépend. Et donc aujourd'hui, c'est parce que mon mari est actuellement toujours en train de finir son doctorat, donc c'est moi le qui ramène les sous à la maison, on va dire, c'est moi le patron. donc je peux pas trop me reposer, mais je pense que quand lui il aura enfin fini son doctorat, qu'il aura trouvé quelque chose, je pourrais peut-être ralentir un peu le rythme et faire ça plus tranquillement comme j'en ai envie, et puis en fonction de, voilà, de choisir un petit peu plus les séries, etc.
Mmh. Ok, et juste super transition, c'est parfait, parce que j'étais parti pour te demander un peu si t'as un thème de prédilection en termes de thème de webtoon que tu traduis, ou tu prends vraiment tout ce qui arrive.
Aujourd'hui, je prends tout, mais
Ok.
Je préfère traduire les shonen. Donc le genre plutôt comment dire à la Naruto, voilà, pour donner un style un peu que tout le monde peut connaître. Voilà, Naruto, ce genre-là, mais dans les webtoons coréens, il y a aussi des styles pour garçons, parce qu'ils appellent ça comme ça, hein, même si moi j'adore les lire et que je suis pas un garçon. Donc j'adore traduire ce type-là, mais je traduis quand même pas mal aussi de webtoons pour filles, ce qui est moins mon genre parce que c'est souvent cucu. Non, l'électrice de Shoujo, il y en a beaucoup qui sont bien plus âgées que moi, qui sont des mamans, qui ont... Là, je n'ai rien à voir là-dedans.
Ok.
Ouais. Et beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle le BL, donc le Boys Love, donc c'est des webtoons un peu érotiques, voire plus, entre garçons. Et c'est très populaire chez les femmes, hein, femmes lectrices. Donc voilà, il y a beaucoup d'offres de ça, et donc j'en traduis aussi un petit peu, même si c'est pas mon genre préféré, je dois l'avouer, mais il y en a certains auteurs qui sont très... qui ont beaucoup d'imagination. Si je peux dire ça comme ça. Voilà.
D'accord. Donc, on comprendra pour le romancer plus.
Voilà.
Voilà. Ça doit être. Ça doit surprendre. Ouais, non, je. C'est pas compliqué de s'habituer à ça ou pas? C'est.
Je sais pas. C'est quand même plutôt. J'allais dire soft, alors que pas du tout, c'est pas du tout soft. Hein. Il y en a certains qui sont très violents, mais c'est très, c'est pas pornographique non plus, parce qu'on voit pas les parties sensibles sont relativement floutées ou blanchies. Souvent c'est blanc, comme s'il y avait pas de dessin à cet endroit-là. Et concernant ce détail-là, non. Maintenant, il y a certaines histoires qui sont particulières quand même. Quand on est un chouïa féministe, ça fait pas plaisir à voir, quoi. Parce que, enfin, je dis féministe, mais en vrai, c'est même pas lié au féminisme. C'est juste que il y a certains webtoons où, bon, que ce soit le patriarcat, le viol, les trucs comme ça, c'est un peu. Des fois, on sait pas trop pourquoi l'auteur a voulu en arriver. À tel scénario, hein, on se pose des questions. Enfin, moi, je me pose des questions, en tout cas. Je suis pas toujours d'accord.
Ouais, ça peut y aller sans gêne, parfois.
Oui, vraiment.
D'accord. Bon, pour remettre un peu de positivité dans tout ça, est-ce que t'as une série ou deux que tu aimes beaucoup, que tu veux partager? Tu me les enverras par écrit, je les mettrai dans la description pour ceux
des
qui s'intéressent.
Des séries que moi j'ai traduites?
Soit que toi t'es traduite, soit que t'aimes, soit que d'une série que t'aimes bien, Webtoon,
Soit toi qui l'as traduite ou non. Parce qu'il y en a une que j'ai traduite et que je donne à tous mes amis. J'ai dit, allez, voilà.
Bah voilà, celle-là. Parfait.
C'est un thriller, ça s'appelle K le nettoyeur. Bon, le titre français n'est pas incroyable, mais, mais allez le lire si vous aimez les thrillers, c'est très très cool. Et pour vite fait donner le pitch pour que les gens sachent dans quoi ils s'engagent, c'est un mec qui bosse pour les services de renseignement coréens, et un jour sa fille est admise à l'hôpital, et quand il va la voir, il se trouve qu'elle a subi quelque chose de vraiment pas bien, elle a été violée, et lui va essayer, donc il va voir la police, et la police tente de jeter la faute sur sa fille, et il se rend compte que les fautifs, les coupables, eux, sont tous des fils de quelqu'un de connu, un politicien ou ou un grand professeur, voilà. Et en fait, il va se retrouver comme un idiot, à pas pouvoir faire quoi que ce soit pour sa fille. Et elle se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Et elle décide d'en finir. Et donc, à partir de là, lui, puisqu'il est des services secrets, il a été entraîné, c'est un gars qui a fait l'armée, qui... Enfin voilà, il est costaud et c'est une sorte de James Bond coréen, quoi. Et il va décider de venger sa fille Et voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est très très cool.
D'accord. Ok, bon, pour ceux que ça intéresse, je suis en train de regarder un peu là rapidement sur Google. Il est sur Dailytoon.
Voilà.
Ce webtoon. Je cherchais mon mot.
Oui, et il est fini. Okay. Donc, pas besoin terminé. D'attendre les nouveaux épisodes. Voilà.
Et dernière question par rapport à ça, c'est plus toi personnellement, parce que tu manges du webtoon toute ta journée. Est-ce que tu continues quand même d'en lire du coup, tu t'es vraiment juste resté sur la partie professionnelle, je traduis et le reste de ma journée, je ne veux pas en entendre parler.
J'en lis pas vraiment beaucoup. Avant de venir en Corée, je lisais énormément de mangas. J'avais une très grosse bibliothèque de mangas chez moi. J'étais un peu mordue. Et donc, ces dernières années, j'ai pas lu grand-chose en termes de bande dessinée, que ce soit japonaise ou coréenne. J'ai pas lu grand-chose, à part ce que je traduis. Parce que grâce à Netflix, on a beaucoup plus d'animés ou de dramas aussi qui sont adaptés de webtoon par exemple, hein, ou de films. Et donc ça donne envie des fois de lire la version bande dessinée. Et donc ça m'est arrivé de lire une ou deux séries qui avaient été adaptées soit en drama, soit en film. Et là j'essaye de lire le très connu Demon Slayer, qui est un manga japonais. Mais voilà, je le lis petit à petit quand j'ai le temps, parce que c'est un des mangas qui a connu sa grande popularité là ces dernières années et que moi j'ai complètement raté parce que je suis plus du tout. Et voilà.
Ok, donc t'essayes t'as réduit, mais tu continues un peu de temps en temps quand même.
Voilà, un petit peu.
D'accord.
J'achète plus les livres parce que ça prend trop de place par contre.
Ouais, ça va tout en digital du coup.
Voilà.
Ok, et ben super. Ça nous fait une belle partie sur l'aspect professionnel. Pour faire un peu de sorte de transition, on va peut-être parler de la gestion et le stress permanent des visas. Comment ça s'est passé toi de ton côté? Parce qu'on, t'as fait pas mal d'allers-retours entre études, PVT. Je sais pas si t'as fait un visa travail ou si t'as fait juste directement, je crois que c'est F6 pour le mariage de mémoire.
Oui.
Comment ça se passe un peu tout ça, les allers-retours, savoir si ça va passer ou non.
Je pense que j'ai eu plutôt de la chance. J'ai jamais été. Je suis du genre anxieuse, donc je vais quand même stresser avant de faire mon visa. Au moment d'aller à l'immigration pour renouveler, je stresse toujours. Est-ce que j'ai oublié un papier? Mais globalement, j'ai pas eu de. En fait, j'ai jamais eu à demander un visa un peu difficile à obtenir. J'ai eu d'abord le D4, donc visa de pour apprendre la langue coréenne. Puis j'ai eu le Working Holiday, le vacances travail. Le H1. Puis j'ai de nouveau eu le D4, donc pour apprendre le coréen. Et après l'école de traduction, c'était aussi en D4. C'était un D4 différent, c'était stagiaire, je sais plus exactement le terme, ou formation spéciale ou quelque chose comme ça. Et puis à la fin de mes deux années à l'école de traduction, j'ai fait le F6 parce que c'est plus simple qu'avoir un visa travail tout simplement. Puis en vrai, je peux pas avoir de visa travail avec mon statut actuel.
Oui, vu que t'es freelance.
Et ouais.
Ok. Et d'ailleurs, tu souhaites rester freelance, tu te dis pas, tiens, pourquoi pas se poser au chaud, entre guillemets, dans une entreprise de traduction parce qu'il y en a des qui embauchent, qui cherchent pas forcément que des freelances. Tu préfères rester
Bonne question. Parce qu'en fait, après mon école de traduction, je voulais, moi, travailler en entreprise. Et j'aurais préféré être en entreprise, avoir un CDI, être posé, avoir mon salaire tous les mois qui tombe, pas me stresser par rapport à ça, pas avoir à chercher des clients, avoir des horaires de bureau, c'est-à-dire avoir les soirs tranquilles, les week-ends tranquilles, les vacances. Enfin, quand je dis vacances, c'est parce que j'en ai vraiment pas. Depuis que je suis freelance, j'ai pas trop vraiment pris de vacances. Et tout ça, c'est beaucoup d'avantages, surtout qu'en plus, quand t'es en entreprise, évidemment, t'as l'assurance qui est payée, tu cotises pour la retraite. Moi, tout ça, j'ai pas, quoi. Donc, je dois me débrouiller toute seule, en tout cas. Donc, voilà, il y a quand même pas mal d'inconvénients à être freelance aussi. Mais comme déjà, à ce moment-là, mon mari était en doctorat et qu'on savait pas quand est-ce qu'il allait finir, et qu'il y a des risques qu'après son doctorat, il aille faire un post-doctorat quelque part ailleurs dans un autre pays. Être freelance, ça me permet d'avoir cette liberté de pouvoir travailler de chez moi et de pouvoir bouger sans être trop embêté. Et voilà pourquoi je suis devenue freelance. C'est vraiment la raison première.
Ok. Très bien. Et donc freelance, ça fait quoi? C'était freelance sous un statut coréen, le visa F6, il permet ça?
Oui, quand on est F6, on peut s'enregistrer en tant que freelance. Et je suis enregistrée ici. L'avantage par rapport à la France, où en France, il y a l'URSSAF à payer qui coûte une fortune. Mais l'avantage de l'URSSAF, c'est aussi les cotisations, la retraite, tous les trucs, les avantages français, quoi. Que je n'ai pas ici, parce que moi, ici, je paye juste mes taxes en mai. Et je paye pas beaucoup de taxes, soit, mais j'ai aucun, on me donne rien, quoi, en échange. Donc.
Et il n'y a pas des systèmes comme, parce que je crois qu'en Corée, il y a quand même la retraite et autres. Donc,
oui,
il n'y a pas une option.
Non, c'est moi qui dois me débrouiller, ça. C'est moi qui dois faire toute seule, en fait. Voilà. C'est pas fait automatiquement, quoi, comme quand on a un boulot avec contrat dans une entreprise. C'est un peu différent.
Et c'est pas trop compliqué, justement, à gérer ça tout seul Alors bon, tu maîtrises bien le coréen, donc c'est sûr que ça aide. Par exemple, je me vois pas faire ça. Mais comment ça se passe, justement, pour s'habituer et trouver comment faire, c'est pas trop compliqué.
Je pense que ça, en fait, aussi, oui, c'est compliqué. Je vais pas mentir, c'est compliqué. Maintenant, j'ai la chance d'être mariée avec un Coréen qui est plutôt intelligent et qui arrive bien à m'aider. Donc, il est très, comment on dit en français déjà? J'ai le mot en coréen maintenant. Voilà. Non, il est très. Il regarde toujours tout dans les détails, il lit bien, il est très.
Minutieux.
Voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais, merci. Minutieux. Et donc, quand on fait tout ce qui est, par exemple, impôts, payer les impôts, enfin les taxes, ou s'enregistrer, quand j'ai dû m'enregistrer, il m'a beaucoup aidé parce qu'il m'aide à chercher sur. On va sur Naver, on cherche des blogs qui expliquent comment faire. On se renseigne beaucoup sur Naver, en fait, avec des gens qui ont déjà fait avant nous. Et ensuite, on va sur les sites très compliqués du gouvernement coréen, et puis on essaye de trouver notre chemin là-dedans.
D'accord.
Voilà. Donc c'est compliqué, mais faisable quand on est accompagné. Voilà.
Ok. Mais les démarches semblent un peu tendues, parce que moi je sais que par exemple, auto-entrepreneur, c'est assez simple à faire en France.
Oui.
Jusqu'à temps que tu sois pas obligé de déclarer la TVA, parce que bon, faut pas que ça reste trop simple non plus. Mais en Corée, ça se passe comment? Ça se fait facilement?
C'est très facile. Je pense que c'est même plus facile qu'en France. Parce que ici, déjà, là, moi, le statut sous lequel je suis, j'ai pas de TVA à payer. Donc c'est bien. Et j'ai, comment dire, pour s'enregistrer, bon, il y a on va sur le site du fisc, et puis, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est leur site. Il y a trop de choses. Il est trop fourni. On sait jamais dans quel menu il faut aller, où est-ce qu'il faut cliquer pour faire telle chose ou telle chose. Mais une fois qu'on a trouvé le bon onglet, on va dire, c'est très simple de s'inscrire. Et moi, j'ai eu la réponse, 12 heures après, pour me dire que c'était bon. Et j'ai reçu mon certificat, et voilà. Très rapide.
Et d'accord,
en soi, le processus lui-même n'est pas du tout compliqué. Vu qu'on est déjà tout enregistré partout en Corée, on a juste à donner son numéro d'identité et son nom, peut-être recevoir un SMS ou deux sur son téléphone pour valider.
Okay.
La même chose que pour tout, en fait, tout ce qu'on fait en ligne. Mais ça se fait en ligne, enfin tout se fait en ligne, c'est assez, assez bien de ce côté-là, assez pratique.
D'accord, parfait. Ok, c'est vrai qu'en France c'est assez simple aussi. Juste le petit formulaire, puis tu peux commencer à exercer, t'attends le papier qui arrive 2 semaines après par la poste. D'accord, donc au final, ok, se lancer en freelance, assez simple en Corée, plus simple de trouver l'onglet que de faire la procédure, de ce que je comprends.
Voilà, exactement.
Très bien, et ben continuons un peu, avançons pour savoir un petit peu dans ta vie perso et dans ta vie pro en Corée, quels sont des éléments qui t'ont marqué, que ce soit en positif ou négatif. Est-ce que t'as des anecdotes?
Alors, pro, oui. De toute façon, j'en ai parlé déjà tout à l'heure au niveau des offres. Avec mon travail actuel, je trouve qu'au niveau des offres, on se fait un petit peu marcher dessus. On est surtout les boîtes coréennes. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un client qui est très carré, qui paye pas au lance-pierre, mais qui est pas tenu, enfin, qui est pas à 100% coréenne comme entreprise, donc que c'est un peu différent. Mais les boîtes coréennes ont tendance un petit peu à nous prendre pour des vaches à lait. Donc ça, c'est une expérience que j'ai du mal à accepter, parce que bah, si aujourd'hui les webtoons ils peuvent se lire à l'étranger, c'est parce qu'il y a aussi des traducteurs qui peuvent retranscrire la langue et la culture coréenne directement dans le webtoon, quoi. Donc je pense que d'autres traducteurs se sentent peut-être un peu pareil que moi. On se sent un petit peu un peu traité comme si on était le bas de l'échelle de tout le processus. Parce que bon, il y a nous, puis après il y a les relecteurs, et puis il y a les éditeurs, et etc. etc. Mais c'est des fois ce sentiment que j'ai où on se dit, bah, en fait, c'est nous qui faisons le plus. On fait pas le plus gros du travail, mais quand même, si on n'était pas là, bah, on peut rien faire, en fait. Et pourtant, on n'est pas forcément. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment traité à la hauteur de notre travail. Voilà. Mais c'est mon avis personnel, évidemment. Et j'ai aussi ressenti. Quand j'étais à l'entreprise qui faisait les logiciels vocaux, la première année quand j'étais donc en PVT et on était, je crois, on était 3 ou 4 étrangers dans cette entreprise, une entreprise disons moyenne. C'est pas une petite entreprise, mais il y avait quand même pas mal d'employés. Mais on était 3-4 étrangers, on faisait tous la même chose pour des langues différentes. Moi pour le français, il y en a un pour l'allemand, une pour le chinois. Mandarin, voilà. Et on était trop bien traités. On nous traitait comme tout le monde, en fait. On participait au dîner le soir quand il y avait des dîners organisés à des Weishik. On faisait partie de l'équipe, quoi. Donc on y allait aussi. Quand il y avait, un anniversaire organisé, quelque chose, on faisait aussi partie de l'événement, voilà. Ouais. Et la deuxième année. À partir de la deuxième année, ils ont embauché plein d'étrangers en part-time, de plein de langues différentes, de plein de pays différents. Et en fait, on a commencé à nous mettre de côté. Donc on participait plus à rien, on n'était plus invité à rien. On était les étrangers d'un côté, les Coréens de l'autre. Et j'ai ressenti, c'est très dur à faire, à voir quand on est soi-même déjà dans l'entreprise depuis le début. C'est-à-dire que j'ai vu passer beaucoup, beaucoup d'employés part-time parce que eux, c'était souvent des étudiants, donc ils venaient, ils partaient. Mais moi, j'étais là depuis le début, et d'avoir été traité si bien au début, puis après si mal, j'étais tellement déçue. Je les considérais comme mes collègues et tout, et puis bon, il y a eu ce moment clé où beaucoup d'étrangers ont été embauchés, où d'un coup ils ont dit « Oh ben finalement, trop d'étrangers, on va tous les laisser là-bas ». Il y en avait beaucoup qui parlaient pas bien coréen, donc... ça, peut-être que ça y jouait aussi, je sais pas.
Ouais,
mais,
ça simplifie pas.
Ouais. Mais bon, quand on embauche des étrangers, il faut s'adapter aussi. Voilà. Donc j'ai pas trop aimé ça. Et pourtant, c'était une très bonne entreprise. Au début, je m'y plaisais énormément. Et niveau personnel, un moment qui m'a marqué, je pense que c'est la rencontre avec la famille de mon mari. C'était un peu particulier. Déjà, c'était en plein été, donc il faisait très chaud, très humide.
Ouais, très
et je m'étais
lourd.
Préparé, voilà, très lourd. Et je m'étais préparé en disant, et voilà, c'est ça. Et moi, je suis quelqu'un qui se maquille pas beaucoup, je m'habille de façon très relaxe, t-shirt, jean, vraiment très simple. Et là, je me suis dit, allez, Marion, tu mets le paquet, il faut bien être habillée. Alors, j'avais mis une robe, j'ai mis des petites sandales, je m'étais maquillée. J'étais bien coiffée et tout. Bon, 5 minutes dehors, il n'y avait plus rien. Donc, je suis arrivée, j'avais les cheveux n'importe comment, je transpirais, je suais de la moustache, là, j'avais le maquillage qui coulait. Enfin, c'était horrible. Et la famille de mon mari est une famille un peu traditionnelle, un petit peu petit peu aisée, pas du tout comme la mienne. Donc je voulais vraiment faire bonne figure. Et on s'est retrouvés dans un restaurant de barbecue de bœuf qui coûtait très très cher. Et j'étais pas à ma place, je me sentais tellement mal à l'aise. Et c'était très très spécial et c'est pour ça que ça m'a marqué. Parce que j'avais ce stress, j'avais ramené des cadeaux français qui m'avaient coûté très cher, genre bouteille de whisky, des parfums Dior ou Chanel, je sais plus. J'avais ramené des trucs comme ça. Et les parents étaient très... Il y avait une distance énorme entre eux et moi. Et ça m'a fait très bizarre. J'étais pas à l'aise. Heureusement, aujourd'hui, ça va, mais...
Tu parlais déjà coréen en plus à cette époque-là ou c'était comment ton niveau à peu près?
Je parlais mais pas très très bien. Mais je me débrouillais, je faisais de mon mieux. Après, il fallait qu'ils parlent, c'était quand je les ai rencontrés la première fois, j'étais encore en cours de coréen à Seoul National University.
Mm-hmm. Donc, j'étais. Ouais, enfin bon, même si c'était sans être bilingue, enfin tu pouvais voilà, s'ils parlaient pas trop vite, tu pouvais comprendre, tu pouvais répondre.
Oui, c'est ça, voilà. En général, ça allait. Sinon, il y avait mon mari qui pouvait m'aider. Lui, il parle très bien français, il parle anglais, enfin, il parle quatre langues. Donc,
okay.
Et il est très, très doué dans les langues. Et du coup, c'est lui qui, si moi je bloquais sur quelque chose, il pouvait m'aider
à
traduire.
Accompagner. Très bien. Ouais, non, mais tu vois, déjà, tu dis, ouais, si je bloquais sur un point, tu disais pas, bon, bah, toutes les deux phrases, il était obligé d'intervenir parce que je pouvais pas, quoi. Donc, à minimal, ça n'a pas été que à cause de la langue, si tu as ressenti un petit peu de distance au début.
Ah non, c'était pas la langue le problème.
Si maintenant ça va mieux.
Oui, c'était vraiment juste un peu. Voilà, c'est un peu particulier quoi. Ils savaient que j'existais, ils savaient que j'étais française, mais ils pensaient que ça allait être une passade peut-être. Et. Donc ils n'étaient pas très très enchantés au début, mais finalement aujourd'hui ils m'aiment beaucoup, donc voilà, donc ça va.
Parfait. C'était dans un restaurant, t'étais dans des salles à part aussi ou parce que j'ai
oui.
eu ça moi,
j'ai oui. rencontré. Ah ouais, oui.
C'est terrible.
mais ses parents adorent ce genre de restaurant, donc on mange très souvent dans notre petite salle privée. Celui-ci de restaurant, pour ceux qui connaissent, peut-être que certains connaîtront, ça s'appelle Gyeongbokgung, comme le palais. Mm-hmm. Et c'est le genre de restaurant coréen qui se veut un peu gastro, enfin semi-gastro, parce que c'est pas des plats avec des jolis décos et tout, mais ça coûte un peu cher quand même, voilà. Et donc c'est un peu cher, voilà. Et c'était pas dans mes habitudes d'aller dans ce genre de restaurant, donc j'étais vraiment pas à ma place. Ouais, c'est tout l'ambiance et tout. La première rencontre, je les connais pas, je leur ai jamais parlé. Enfin, il y avait toutes ces petites choses qui font que c'est resté gravé dans ma tête jusqu'à aujourd'hui là. Et je pense que je m'en souviendrai toujours.
Ah, bah, je te comprends. Surtout en plus, si t'es dans une salle, c'est ultra intimidant. On n'est pas prêt.
Exactement.
On n'est pas prêt à vivre ça. Très bien. C'est toutes les années que tu as ou tu souhaites en partager d'autres?
J'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais je suis sûr que j'en ai plein, mais
non, mais voilà, pas d'autres qui sont marquantes si ça te vient pas tout de suite.
ouais. Non, mais ça va, j'ai pas eu trop le choc culturel comme d'autres ont. Je sais que j'ai pas été peut-être parce que j'ai eu des amis coréens avant, que je me suis beaucoup renseignée avant de venir vivre ici, donc je m'attendais à beaucoup de choses. Jamais jusqu'au bout à 100%, mais en tout cas, j'ai pu tout appréhender plus simplement, je pense, en étant renseigné.
Ouais, puis ça s'est fait étape par étape, venir une première fois, puis une deuxième, t'es pas arrivé.
Oui, c'est ça.
Juste deux semaines de voyage, puis ah, ça y est, PVT, quoi, t'es pas arrivé comme ça.
Exactement.
T'as eu tout un cheminement qui a pu te préparer à la vie coréenne.
C'est ça.
Petite anecdote complémentaire du coup, celle que j'apprécie entre guillemets, c'est l'annonce de ton départ en Corée à ta famille. Comment ça s'est passé, comment ça se passe même encore maintenant avec la famille française pour toi?
Alors au tout début, quand je suis venue pour donc en 2014 pour mes cours de coréen. Ça allait parce que mes parents partaient du principe que de toute façon c'était juste pour des cours que j'allais rentrer. Donc ils se posaient pas vraiment de questions. Ma mère, elle s'en doutait que j'allais partir à un moment donné, que ce soit le Japon, la Corée. Bon, elle savait très bien qu'à un moment donné, j'allais y aller pour une raison ou une autre. Et bon, ils ne s'attendaient pas à ce que je rencontre un garçon. Enfin, ils ne s'y attendaient pas. Ma mère, elle me dit que oui, mais au fond, elle ne s'y attendait pas parce que c'est elle qui l'a le plus mal pris, finalement, que je reste. Donc, enfin, que je revienne, plutôt. Et mon père, il m'a toujours poussé à faire ce que je voulais. Donc, il n'a jamais été très... Non, lui était content. Au contraire, lui, il voulait venir... voulait venir me voir, il voulait voir à quoi ressemblait la Corée. Et ma mère, au début, c'était un peu difficile, ouais. Ma mère, ça a été difficile. Elle m'en voulait un petit peu d'être partie. Même aujourd'hui, elle m'en veut toujours un petit peu parce que j'ai une petite sœur qui a 15 ans et qui aimerait venir me voir. Et moi, je dis, j'avais proposé, avant qu'il y ait le Covid, j'avais dit à ma mère, ben, mets-la dans l'avion, moi, je la récupère à l'arrivée, elle reste à la maison, t'as pas à t'inquiéter, quoi. Et ma mère a dit non, je veux pas qu'elle parte. Je lui ai dit bah, pourquoi ? Et elle m'a dit parce que j'ai déjà une fille qui est partie loin, je veux pas que l'autre ait envie de partir aussi. Et du coup, voilà, ça lui fait peur. Elle a peur que on est trois filles, hein. Je suis l'aînée. La deuxième fille, elle est mariée, elle a des enfants, elle est posée en France. Donc ma mère est très heureuse. Et la troisième, vu qu'elle a que 15 ans, bon, on sait pas trop où ça va l'amener. Et ma mère a peur qu'elle soit comme moi et que du coup, elle veuille. Partir loin.
Elle a encore et tout le champ des possibles.
Exactement. Donc ouais, c'est ça. Ça l'a travaillé beaucoup ma mère et pourtant et en même temps elle est venue en Corée me voir et elle a beaucoup aimé. Elle adore mon mari. Mais voilà, ça l'embête un peu que je sois si loin. Ouais, je la comprends en même temps, c'est normal. Quand on fait des enfants, c'est pas pour jamais les voir aussi. Donc ça se comprend. Et aujourd'hui, aujourd'hui mon père n'est plus là. Donc malheureusement, pour lui, il a jamais pu venir me voir. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait beaucoup aimé aussi. Mais là, ma mère, mon beau-père, mes deux sœurs vont venir pour mon mariage. Donc ça va être... j'ai hâte, même si ça sera en août. Donc je pense qu'ils vont, ils vont pas s'attendre au temps ouais. qu'il va faire. Mais ça va les dépayser, c'est ça.
Comment ça les préparer.
J'ai commencé, mais je suis pas sûre qu'ils s'imaginent.
Tu me disais plutôt que t'as pas eu toi trop le choc culturel. Est-ce que tu vois des grandes différences quand même entre la France et la Corée ou pas ?
Oui, bien sûr. Déjà, ça a évolué depuis en France parce que bon, je suis ici depuis un petit moment maintenant. Mais le confort numérique. Au début, tout ce qui est évidemment tout ce que je pense que tous les étrangers qui viennent en Corée remarquent, c'est-à-dire avoir le wifi partout, pouvoir utiliser son téléphone en pleine montagne, je sais pas où, et capter quand même la 4G, il y a quand même un confort numérique qui est assez incroyable. Tout ce qui est aussi beaucoup moins de paperasse. Tout se fait quand même globalement sur internet ou via un ordinateur. Moi, je trouve que c'est très confortable. Bon, je pense que pour les anciennes générations, c'est un peu compliqué, mais bon, malheureusement, il faut. Voilà, c'est la vie, j'ai envie de dire. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas. Et je sais qu'en France, ça s'améliore de plus en plus. Je vois avec ma banque française, parce que j'ai toujours mon compte français, et je vois que ça s'améliore. Leur application, elle s'améliore. Il y a les paiements instantanés existent maintenant en France, les virements, pardon. Alors qu'avant, ouais. C'était impossible. Pour recevoir un virement, il fallait 4 jours. Enfin, c'était. Et aujourd'hui, tu peux faire un virement instantané si tu payes 1 euro. Donc, ils sont pas cons quand même. Hein. Ils oublient pas d'où ils viennent. Mais voilà. Et il y a plein de trucs comme ça que je trouve hyper confortables en Corée. Évidemment, le rythme de vie, le fait que tout soit ouvert tout le temps. Je pense que c'est les mêmes points que beaucoup d'autres personnes trouvent. C'est-à-dire, les Pyeongnam Jam, les karaokés, la vie de nuit est très agréable, même quand on n'est pas très fêtard, parce que moi je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais c'est quand même chouette quoi, il y a beaucoup de choses à faire, même tard le soir, même la nuit, n'importe quelle heure de la journée, ça vit beaucoup et j'aime beaucoup ça aussi. Pour l'instant, peut-être que ça change après en vieillissant, je sais pas, mais pour l'instant c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans le point un peu plutôt négatif, on va dire, dans ces grandes différences, je dirais que c'est la logique. En fait, on a la logique française et la logique coréenne sont tellement différentes sur beaucoup de choses. la façon de penser des processus, de penser des... comment dire, que ce soit dans le travail ou même dans la vie de tous les jours, ils n'ont pas une logique comme la nôtre, j'ai l'impression, et des fois ça a créé soit des quiproquos, soit des situations un peu étranges où on est un peu hébété et on se dit mais pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de raison, en fait, c'est juste la logique coréenne, comme nous on a notre logique française, mais c'est un peu déstabilisant parfois.
Ok. Voilà. T'aurais un exemple un peu, ou si tu t'en souviens d'un exemple pour illustrer ça ou pas?
Un exemple, mais est-ce que ça fait part, est-ce que ça rentre là-dedans? Je suis pas sûre, mais le fait d'avoir la climatisation dans des magasins, donc ça c'est bien. L'été, il fait chaud, c'est normal qu'il y ait la clim, et de laisser les portes ouvertes. Ah moi je trouve ça illogique au possible, mais pour eux c'est normal, voilà.
Alors, c'est je pas pense grave. Que ça se passe en France, ça se passe en France aussi un peu.
Mais on a quand même beaucoup de portes automatiques en France où effectivement reste beaucoup ouvert parce que ça s'ouvre souvent, mais où techniquement ça se referme quand même. Ici, ils ont vraiment les portes ouvertes et puis elles se referment jamais quoi. Mais ça m'est arrivé quand même pas mal de fois de me dire mais pourquoi ça? Pourquoi ils font comme ça? Je comprends pas. Et puis bon, finalement, bon, pourquoi pas?
Non mais ça, en tout cas, ça illustre bien ouais, ton propos. C'est vrai que c'est pas cohérent. On va pas se mentir.
Oui, voilà.
Bon, on va pas se mentir. Mais bon, on a des bons spécimens en France aussi. Je vois dans mon bureau, ils sont capables de mettre la clim à 17. Tu fais, c'est quoi l'objectif? Tu vas chuter la crêpe, quoi. Enfin...
ça sert à rien. C'est un peu bête. Voilà. Mais bon, oui. Voilà.
ça fait 3 ans, ils ont toujours pas compris.
C'est compliqué, des fois.
Voilà, du coup, je m'occupe juste de l'éteindre et j'arrête de discuter.
Je comprends.
Par rapport à un peu à ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu partes en Corée, que ce soit un préjugé qui soit faux, quelque chose que tu savais pas, qui t'aurait un peu simplifié ton intégration ou autre?
Est-ce que je peux revenir juste sur le point précédent avant?
Bien sûr.
Parce que au niveau des points communs, j'avais un point commun dont je voulais parler, c'était la fierté. Je trouve que ce soit les Français comme les Coréens, il y a cette fierté particulière de ma nourriture c'est la meilleure, ma langue c'est la meilleure, ma culture c'est la meilleure, un petit peu. Je dis pas que tout le monde est comme ça, bien évidemment, mais globalement quand même, on a tendance à être plutôt fiers de nous quand même, nous les Français. Mm-hmm. D'ailleurs, beaucoup de gens dans le monde disent qu'on est arrogant, etc. Donc, et les Coréens, ils ont un petit peu ça aussi. Ils ont ce côté... quand on rencontre un monsieur et qu'il nous demande d'où on vient, qu'on répond « Ah, ben on est de France », et qu'il dit « Ah, j'ai eu une fois cette conversation où la personne m'a demandé « Ah, mais vous aimez la nourriture coréenne ?» Je dis « Oui, j'adore ». Il dit « Ah, mais c'est meilleur quoi, la nourriture coréenne ou la nourriture française ?» Et moi, je dis « Bah, les deux. Les deux sont excellents. » Et il dit « Ah non, c'est la nourriture coréenne ». Où c'est beaucoup de d'hommes coréens qui ont tendance à dire alors c'est quoi le mieux, les hommes coréens ou les hommes français? Non mais arrêtez, c'est pas la peine de faire ça, ça sert à rien. Il y a pas mieux, c'est pareil partout en fait. Mais donc voilà, il y a cette petite fierté particulière, je trouve, voilà, qui est aussi en France, mais pas de la même manière. Mais les Français sont quand même relativement fiers aussi de leur langue, de leur culture, de leur nourriture. Voilà. Et les Coréens aussi, plutôt, je trouve.
Ok. Oui, non, c'est vrai que je suis assez d'accord sur ce point-là de mentalité généralement assez fière. Mais peut-être une plus humble que l'autre. Corée peut-être un peu plus humble quand ça se met à pleurer, parce que tu leur dis que tu parles coréen... Plus étonné que ce qu'on en pense.
Parce que c'est nouveau. On est encore dans le début, c'est pour ça, je pense. Mais ça va vite disparaître, ça, je pense. Là, avec le nombre d'étrangers qui parlent coréen maintenant, ouais. Et puis ça se développe de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qu'on verra plus dans quelques années. Il faut en profiter tant que c'est encore. Voilà. Tant que les albas du Pionier Jom sont. Ils sont étonnés par votre coréen parce que vous avez dit bonjour et merci. Profitez-en.
Très bien, on fera ça, on en profitera. Et Du coup, pour venir ouais, sur la question suivante, pour retourner sur la question suivante, qu'est-ce que t'aurais aimé, toi, à savoir qu'on te dise par rapport à. Enfin, sur la Corée avant que tu viennes?
Ouais, j'aurais voulu savoir, alors je sais pas, c'est peut-être un détail, mais j'aurais voulu savoir que comment fonctionne le système des. Comment dire? Je sais même pas comment dire. De comment, quand on s'enregistre sur un site internet par exemple, ou quand on s'enregistre pour un site du gouvernement, j'aurais voulu savoir que des fois, ben parce qu'on a un nom trop long avec tous nos prénoms, que ça rentre pas, par exemple. Ce genre de choses, j'aurais aimé le savoir, parce que c'est une des choses qui m'a le plus embêté depuis que j'habite ici, c'est de pas pouvoir m'inscrire sur tel endroit, pas pouvoir valider ou confirmer sur tel site ou sur tel ou dans tel magasin parce que mon nom y rentre pas et que je suis obligée de mettre tous mes prénoms parce que c'est écrit comme ça sur mon passeport et que si j'avais su, peut-être que j'aurais trouvé un système en France avant de venir pour plus qu'il y ait mes deuxième et troisième prénoms sur mon passeport. Ça me casse les pieds.
Changer, retirer tes deux autres prénoms.
Oui, parce qu'en fait je pense que mes parents, eux, ils auraient pas été très contents, mais moi, je les utilise pas, quoi. Ils me servent à rien. Et même si j'aime beaucoup mes grands-mères, c'est pas parce que j'ai pas leur prénom que je vais les oublier. Donc, je suis pas très attachée à mes deuxième et troisième prénoms. Donc, ça m'aurait pas dérangé de les enlever pour me faciliter la vie, quoi. Vraiment. J'aurais été capable d'aller jusque-là, je crois.
C'est vrai que c'est une très bonne remarque, surtout que moi, en plus, dans mon deuxième prénom, j'ai un accent.
Ouais, j'ai de la chance beaucoup, de pas un accent, moi. Là, je touche du bois, voilà. C'est déjà ça.
Beaucoup, je vois beaucoup de commentaires sur ça, c'est vrai. Pas mal de sites, je crois qu'il y avait le problème d'ailleurs sur les sites pour s'enregistrer pour les vaccins, où parfois ils mettaient des tirets entre les deuxième et troisième prénoms, alors qu'il n'y en avait pas normalement, et que sur chaque site, c'est référencé différemment. Parfois, c'est écrit en majuscule. Oui. Parfois, non, c'est juste en minuscule.
Tous ceux qui ont
des accents, c'est la merde incroyable.
Ah ouais, les accents, c'est impossible. Mais par exemple, moi, sur mon ARC.
De commentaires là-dessus.
C'est compréhensible, franchement. Sur mon ARC, moi, entre. Il y a marqué Polezello, Marion, et mon deuxième prénom, c'est Claire. Et c'est marqué CL, tiré à la ligne. AIRE. Ben non, des fois ils ont envie de mettre le tiré. Je dis mais ils sont couillons quand même. Enfin, ah ben t'es logique coréenne, hein. Voilà. Ça pour moi c'est une logique coréenne. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt évident que le c'est pas fini, que c'est pour ça qu'il y a un tiré, mais je sais pas. Et voilà. Et je suis pas la seule, j'ai des amis à qui ça arrivait aussi, donc c'est assez commun quand même.
Ah là 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 là. Ah oui, compliqué ça. Mais ouais, et d'ailleurs, il y a le site, hein, et on le voit même nous en tant que touristes, si ça peut te rassurer, le site du Q-code, tu sais, qui est obligatoire, machin, tu ne peux pas faire un espace quand ils disent mettez tous vos prénoms, sauf que tu pouvais mettre d'espace. Du coup, moi je suis rentré, Mathieu Sébastien. Pas Mathieu Sébastien, mais Mathieu Sébastien.
Ah ouais. Ah ben ça va être. Ah ben ils vont être enchantés, mes soeurs et ma mère vont être enchantées quand
voilà,
ils vont devoir s'enregistrer.
Elles vont pouvoir écrire tout ça. En un seul mot. Alors, ils ont peut-être corrigé depuis le temps, mais en tout cas, moi, quand je l'ai fait le 3 juin.
Ah oui, il n'y a pas longtemps.
non, pas le 3 juin, n'importe quoi. C'est là qu'on est en train. Le 3 avril, pardon. Je l'ai fait le 1er ou le 2 avril. En tout cas, tu ne pouvais pas mettre d'espace sur tes prénoms. La Corée. Bienvenue.
Oui, voilà.
C'est le retour.
Voilà.
Ça me fait encore une belle transition d'ailleurs pour la prochaine question, je trouve. Un peu l'adaptation d'un point de vue personnel à toute. C'est pas une coutume, hein, mais c'est vrai que bon, quand on est étranger, ça en devient presque une. Mais comment tu as pu, toi, t'adapter un peu à la nouvelle culture, à l'intégration? T'as pas déjà parlé un peu de la belle famille. Comment est-ce que tout ça se passe pour toi?
Je pense que ça s'est plutôt bien fait. J'ai envie de m'adapter. Donc, même si à la maison, quand on est que tous les deux, bon, j'ai mon côté français qui ressort quand même, mais sinon, je m'adapte quand même plutôt pas mal. Je suis partisane de à Rome, faites comme les Romains, quoi, un petit peu. Donc, J'essaie de m'adapter. Bon, sur certaines choses, je dis rien, mais je fais pas forcément tout parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas toujours. Hein. C'est pas, je suis pas pour faire 100% comme une coréenne, puis je suis pas coréenne, donc de toute façon, je peux pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ma belle famille, par exemple, l'a compris, et c'est pour ça que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'ils apprécient mes efforts. Ils apprécient que ce soit mes efforts en langue, mes efforts en intégration. Ils apprécient énormément que je fasse tous ces efforts-là. Et du coup, ça se passe vraiment bien. En tout cas, niveau famille, il n'y a pas de soucis aujourd'hui, je pense. Même si des fois, il y a des petits quiproquos, ça peut arriver quand même. Mais c'est pas grave, quoi. C'est pas des gros problèmes. C'est vraiment des petits détails. Mais par contre, je trouve ça plus difficile de s'intégrer au niveau réseau amical. Aujourd'hui, je pense que la plupart de mes amis, et je pense que peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de Français ici ou de francophones qui sont dans la même situation, on a tendance à être entre nous, quoi. Parce que au début, quand je suis arrivée, évidemment, moi j'étais dans ma partie, j'étais un peu dans la vie estudiantine, PVT, donc c'est les moments où on sort, on rencontre du monde, c'est cool. Mais bon, c'est que des Coréens qui sont là parce qu'ils ont envie de parler anglais. La plupart ne restent pas, quoi. C'est pas des relations sur le long terme.
Long terme, ouais.
Et je trouve que c'est pour moi le plus difficile. C'est ça. Après, le reste, non, ça se passe plutôt bien. Je pense que j'ai assez. J'ai pas, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai pas eu trop de chocs culturels et tout, j'ai pas ressenti non plus de difficultés sur l'intégration.
D'accord. Ok. Après, c'est vrai que c'est souvent, en vrai, les amis qu'on a, ça va se faire peut-être plutôt par le travail ou les études. C'est vrai que quand on est en études, moi, c'est la plupart des amis tchèques, quoi, c'est le lycée, quoi. C'est le lycée, ouais. Et quelques-uns de l'université. Et encore, pour certains, c'est les mêmes, parce qu'on s'est suivis.
Ah, wow. Mais c'est bien.
Mais c'est vrai que, ouais, se faire des, je pense, de bonnes amitiés après, c'est un peu, pas impossible, mais un peu plus compliqué.
Je pense que c'est plus possible en France, en vrai. Parce que ici, quand même, les Coréens ont leur petit cercle et c'est très dur de réussir à s'intégrer. En France, quand on rencontre quelqu'un avec qui on s'entend bien, même si c'est pour une soirée, on va quand même plus facilement réussir à l'intégrer, à présenter ses amis, etc. Les Coréens, ils ont tendance à avoir plusieurs petits cercles et ils se présentent pas les uns les autres. Et c'est très dur, par exemple, moi j'ai des amies coréennes que je connais depuis longtemps, dont certaines que j'ai rencontrées en France quand elles étaient en échange à Lyon, avec qui j'ai voyagé, avec qui j'ai passé de super moments, j'ai rencontré leurs parents, je suis allée à leur mariage, vraiment, j'ai des vraies amies coréennes, quoi. Eh bien, pour certains événements, je ne suis pas inclus parce que je ne connais pas leurs amis. Et donc, en fait, elles ont leur petit groupe d'amis. Et moi, quand elles me voient, c'est juste moi. Parce que, je ne sais pas, c'est différent, quoi. Et je ne me sens pas intégrée. Alors, je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. J'ai déjà eu cette discussion avec d'autres Français qui, eux, se sentent vachement plus intégrés amicalement avec leurs amis coréens. Moi, je ne me sens pas du tout intégrée. Donc... voilà, mais c'est, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est moi. J'ai un problème. Je sais pas.
Allongez-vous sur le divan.
Oui, monsieur. Docteur.
Ok, non, mais c'est... Non, c'est ça t'arrive à toi, ça arrive à d'autres. Donc, c'est intéressant d'en parler. C'est vrai que moi, j'ai quelques amis coréens, mais bon, de toute façon, après, moi, je peux pas blâmer un coréen de pas m'inviter dans son cercle d'amis coréens, dans le sens où j'ai un niveau de coréen éclaté au sol, quoi. Donc, ça serait juste gênant pour tout le monde si je pointais le bout de mon nez. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu parles, t'as un bon niveau coréen, un très bon niveau de coréen, c'est vrai que c'est un peu plus étrange. Surtout si ça te fait ça avec tout le monde, si ça te fait avec une personne encore, tu dis... Bon,
c'est après, j'ai pas non plus beaucoup d'amis coréens non plus. Donc, avec les quelques copines que j'ai, j'en ai pas beaucoup. J'en ai deux rencontrées en France. Une que j'ai rencontrée parce que la première année, quand je suis arrivée ici, j'étais en colocation. Et c'était une de mes colocataires avec qui je suis restée en très bon contact. Et après, la dernière amie coréenne que j'ai, elle est en France. Donc,
okay.
Vraiment, j'ai pas énormément de... Voilà. J'ai que ça.
D'accord.
Ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que bon, c'est compliqué de se voir, quoi, du coup, vu que moi, je suis pas intégrée à chaque fois aux événements.
D'accord. Ok, ok.
C'est un peu triste, dit comme ça, je me sens un peu pathétique.
Non.
Je suis pas malheureuse. Hein.
Écoute, on va te remonter le moral, on va parler d'un événement qui va te faire plaisir, ton mariage.
Ah.
Qui arrive, qui est pour août, du coup, de ce que j'ai pu comprendre. Déjà, comment est-ce que tu vas le faire? Mariage traditionnel coréen ou mariage à la coréenne, petite séance d'une demi-heure, puis buffet dans la zone de buffet avec tout le monde, même les autres mariés, ou est-ce que tu vas faire un truc un peu plus style français compatible?
En fait,
j'ai touché un point de débat là. Ouh.
c'est toujours compliqué quand on a la belle famille, une belle famille qui est un peu conservatrice ou traditionnelle, c'est que eux, ils veulent leur truc à leur manière et moi, je veux le truc à ma manière et donc il y a conflit d'intérêts. Et moi, à la base, j'aurais voulu avoir un mariage un peu type ce qu'ils appellent ici garden wedding ou small wedding. Donc peu d'invités, un petit mariage dans une petite salle avec un jardin, un truc voilà très très intime quoi. Et c'est pas possible parce qu'en fait
qu'ils invitent 50 000 personnes.
Ah non mais 50 non, tu loin de la vérité. 50 000, d'accord, j'ai pas entendu. Oui, parce que j'allais dire 50 000. Donc nous, ça sera un mariage à la coréenne, pas traditionnel, okay. Mais à la coréenne, avec la petite séance traditionnelle avec le Pébec, qu'on appelle. Donc ça y sera aussi. Mais ça, c'est pas devant les invités, c'est que entre membres de la famille. Donc les invités le voient pas, mais oui, donc cérémonie, donc dans la grande salle, le wedding hall avec ça aura lieu à l'université de mon mari parce que il est à Seoul National University, son père y était aussi, donc c'est un peu la fierté familiale. Donc il y a plusieurs wedding halls dans l'université, donc nous on a choisi l'un d'eux et il y aura le buffet, le fameux buffet. Et voilà, donc très très à la coréenne. Et après, moi, j'ai été un peu plus demandeuse sur les autres choses, c'est-à-dire c'est sur les photos que je voulais, sur comment je veux que la cérémonie se déroule, etc. Voilà, ça, c'est moi qui prépare. Donc, j'ai fait des concessions, mais j'attends d'eux qu'ils fassent des concessions aussi de leur côté en me laissant choisir des choses, puisque ça reste quand même notre mariage et pas le leur. Donc, voilà. Mais il y aura beaucoup d'invités, oui. Là, c'est prévu 300 personnes, donc...
Ouais,
voilà. Donc, à peu près 250 que j'ai jamais vu. Donc,
Oui, à minima.
Ah oui.
Ok, d'accord. Et t'as même. Bah, je sais pas si ça peut se faire, mais se dire qu'au pire, après, vous vous retrouvez juste avec la famille après le buffet dans une salle ailleurs.
Oui, c'est ce que je comptais faire, mais c'est vrai que bon, au niveau du budget, ça commence à faire beaucoup, quoi. Parce que, mine de rien, c'est très rapide les mariages coréens, mais c'est très cher. Très très cher. Quand tu vois que ça coûte à peu près la même chose, voire selon les régions en France moins cher que ce que nous on paye pour ce mariage-là, alors que nous ça dure une heure et demie. Enfin, on a la salle pour 3 heures, hein, mais ça dure pas 3 heures. Mais pour le même tarif, ça fait mal aux fesses un petit peu quand même, hein, parce que.
Ok, j'étais pas du tout au courant des prix honnêtement. Voilà. Donc effectivement.
C'est très cher et encore je crois que j'ai même pas le prix total parce qu'en fait il faut rajouter tout le temps de l'argent tout le temps. En fait tout ce que j'avais prévu en termes de budget s'est explosé. Bien au-delà de ce que j'imaginais, donc je sais plus où j'en suis. Voilà.
T'arrêtes de regarder.
J'ai arrêté de compter.
ça t'arrête de te faire du mal.
Ah okay. Oui.
Aïe aïe aïe. Ok, non, alors ça arrête, j'étais pas trop au courant. Pas du tout. Même. Mauvaise surprise, très bien. Ok.
Oui, mais on le prend quand même hyper positivement. Hein. C'est un peu, ouais, c'est très cher, donc on essaie quand même d'en profiter aussi, du coup.
Autant jouer l'utile à l'agréable.
Voilà, c'est ça. À la base, j'étais un peu pessimiste parce que bon, comme le corona, ça avançait pas trop, la Corée s'ouvrait pas trop et tout ça, j'étais un peu pessimiste. Et puis maintenant que tout s'arrange, je le vois de façon beaucoup plus joyeuse.
Ouais, donc, bah, le fait ça va. De savoir que la famille pourrait être là, qu'il y aura
exactement.
Pas de soucis, c'est sûr que c'est un gros plus qui doit te soulager énormément.
Oui, complètement. Complètement. C'était le point noir, en fait. C'était que tout était en train de s'organiser et que je voyais les frontières, enfin les frontières, que les touristes n'étaient toujours pas de nouveau acceptés. J'étais là, mais quand est-ce qu'on, mais comment, est-ce qu'ils vont réouvrir, est-ce qu'ils vont pas réouvrir, est-ce qu'on va avoir un nouveau variant qui va nous tomber sur le coin du museau et après. Vraiment, j'étais inquiète de tout, ça me stressait énormément et aujourd'hui je le prends avec beaucoup plus de calme. Ça va.
Et alors la question, la réponse plutôt risque d'être un peu la même, mais est-ce que vous pensez faire une cérémonie en France pour la famille française qui peut pas venir?
Non. On va pas faire et même si on parle pas du budget, parce que ma mère elle me dit ah mais c'est pas grave, on fait ça à la maison. Mes parents ils ont une maison, ils habitent à la campagne, donc ils ont une maison avec un grand jardin où on peut tout faire dans le jardin, je pense, mais à la limite, on peut faire genre une espèce de petite fête comme ça, mais ça serait pas un mariage en fait. Pour moi, ça sera pas un mariage, ça sera juste une fête de famille, quoi. Ouais. Ça sera pas, voilà. Puis en plus, ça veut dire que mes parents, ils ont divorcé quand j'étais petite, donc ça veut dire qu'il y aurait pas la famille du côté de mon père. Donc c'est pas vraiment pareil, quoi. C'est donc non. Je pense pas qu'on organise trop cher. Surtout, c'est surtout ça le problème. Et puis surtout qu'on n'y vit pas en France, donc c'est compliqué à organiser. Voilà.
Oui, c'est... ok. D'accord, non, c'était une petite question du coup que je me demandais quand même.
Oui, mais il y en a qui le font, hein. Donc c'est faisable, mais tant mieux pour eux en vrai. Hein. Je suis très heureuse pour eux, mais moi je me vois pas faire ça. Déjà, le stress d'organiser une cérémonie, je veux pas le vivre deux fois. Ça suffit. ça m'a suffi.
Ok. Pour continuer un petit peu avec les questions, alors tu as un peu répondu en disant que peut-être ton mari ferait un post-doctorat ailleurs qu'en Corée, mais où est-ce que vous voyez vous sur le long terme, si vous partez c'est juste pour le post-doctorat ou est-ce que c'est et vous revenez après ou avec l'ambition, on sait jamais ce qui se passe, hein. On peut partir en disant on reviendra, puis au final se plaire et rester, hein.
Non, exactement.
Je ne vise personne. Je ne vise pas du tout les 34 épisodes.
Connect.
voilà, est-ce que pour vous, voilà, comment est-ce que vous voyez votre futur avec ton mari, rester en Corée, partir avec l'ambition de ne pas revenir? Qu'est-ce qui vous donne un peu, voilà? Et toi, surtout, qu'est-ce qui te donne envie de rester? Qu'est-ce qui te donne envie de partir de la Corée?
Si le système dans les entreprises coréennes, ou pour mon mari, lui, il est dans la recherche, donc si dans les laboratoires, c'était agréable d'y travailler, si l'environnement de travail était un peu mieux, je pense qu'on pourrait se dire « Ok, on reste en Corée ». Tant qu'on n'a pas d'enfant, en tout cas, parce que pour moi, c'est pas possible d'élever un enfant en Corée. Tant qu'il est petit, ça va, mais à partir d'un certain âge, j'ai pas envie que notre enfant soit bloqué dans le système scolaire coréen et qu'il se. Enfin, c'est trop. Enfin, non, ça me. C'est pas quelque chose qui m'attire énormément. Je pense que j'ai beaucoup trop aimé, moi, mon enfance et ma liberté d'enfant pour l'enlever à mon. Peut-être futur enfant. Donc, tant qu'on n'a pas d'enfant, ça aurait été possible. Maintenant, comme je disais, dans les labos de recherche, ou même, c'est comme dans toutes les autres, et comme dans les entreprises en général, que ce soit la hiérarchie, comme le système de travail, la façon de travailler des Coréens, etc. Moi, je suis pas dans une entreprise, et puis même si j'y étais, ça me dérangerait peut-être pas tant que ça. Mais mon mari, il est très. C'est quelqu'un d'assez sensible et de trop gentil. Et du coup, il a tendance à un peu se laisser marcher sur les pieds et un peu dire oui, et puis à aider tout le monde, et puis plus personne va l'aider, ou rarement. Et j'ai la sensation qu'en Corée, il serait pas très heureux, quoi. Et je pense que lui aussi, parce que c'est lui aussi qui a cette ambition d'aller à l'étranger, déjà pour son post-doctorat, parce que c'est bien, je pense que c'est plus positif pour sa carrière, et puis aussi parce qu'il a envie de découvrir le monde, et puis parce qu'il parle plusieurs langues et que c'est quelque chose qui le passionne. Donc enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'on a, on est plus pour partir. Et en même temps, lui, il aimerait bien aller en France. Moi, je
pas
suis
trop.
Un peu, ben, oui et non en fait. Voilà, je serais plus proche de ma famille. Il y a des choses que j'aime en France, évidemment. Mais j'ai envie de découvrir d'autres choses moi aussi. Et je pense que si on peut découvrir un nouveau pays tous les deux ensemble, ça pourrait être vraiment cool et d'en profiter tant que justement tant qu'on n'a pas d'enfants, tant qu'on est encore assez jeune, qu'on peut bouger comme on a envie, autant le faire maintenant. Et puis en plus la recherche c'est pas très bien payé en France, faut pas se mentir. Donc pour quelqu'un qui a fait autant d'années d'études, c'est quand même dommage d'être mal payé à la sortie de son doctorat quoi. Donc à voir. À part s'il trouve une super offre. Comme professeur après quelque part dans une université française et que ça nous donne envie de rentrer en France, mais sinon je pense pas qu'on rentrera en France. Et la Corée, ben non, je pense pas non plus, mais on sait pas où. Voilà,
pour la Corée c'est vraiment sur la partie éducation des enfants et mentalité hiérarchique du boulot quoi.
Ouais.
Mais tu penses pas que cette partie justement, partie hiérarchique du boulot, ça, ma foi, on peut pas trop y faire grand chose. Mais sur la partie éducation des enfants, tu penses pas que ça provient aussi de la façon dont t'éduques toi ton enfant, c'est-à-dire que pire, bah si tu lui expliques que l'école c'est pas la vie, que tu vis un peu à la campagne pour qu'il puisse, surtout qu'en plus tu viens de la campagne, donc. Enfin voilà, connaître, je suis pareil, hein, le grand jardin, machin, tout ça, pouvoir jouer, ne pas être dans un parc, en plein milieu de Séoul, à la limite être en train de faire la queue pour pouvoir aller faire de la balançoire. Tu penses pas que c'est une question aussi de mentalité et de la façon dont toi tu éduques ton enfant, de dire bon bah écoute là, t'es pas obligé de faire SNU, c'est pas parce que tu fais SNU que tu peux réussir ta vie sans aller à SNU.
Ah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Néanmoins, quand ton enfant il va à l'école et que à côté de lui tous les autres enfants, eux, ça se passe autrement, ton enfant il réfléchit, il va pas forcément toujours voir que le côté positif de ce que toi tu lui enseignes. Et lui il va se comparer aux autres et il va pas comprendre pourquoi tous les autres enfants ils vont à 4 ou 5 hagwon dans la semaine et que lui il y va pas ou il y va juste à un parce que c'est là où il galère un petit peu et que ses parents ont décidé que c'était pour l'aider, tu vois. C'est, en fait, quand t'es enfant, tu te rends pas forcément compte de ce genre de choses. Et donc, moi, ce qui me fait peur, c'est que oui, peut-être que moi, dans ma façon de voir les choses, et peut-être que mon mari, dans sa façon de voir les choses, on va le prendre plus cool et on l'éduquera sans doute différemment des couples coréens-coréens, ici. Mais ça n'empêchera que lui, en allant à l'école, à un moment donné, il pourra pas s'empêcher de se comparer aux autres et c'est là qu'il y aura un petit souci, je pense, et qu'il y aura il va forcément subir du stress d'une manière ou d'une autre de ce côté-là. Et pour ce qui est de vivre de la campagne, etc. Oui, le week-end, on peut aller à la campagne. Oui, ou alors si on trouve du travail en dehors de Séoul, peut-être qu'on aurait de la chance. Mais je sais pas si c'est si simple que ça à faire. Ça dépend de tellement de choses que c'est un petit peu compliqué, je trouve. Mais après, oui, aller à la campagne, ça, c'est pas un problème. Je pensais plus au système scolaire qui me déplaît énormément. Et j'ai pas envie que mon enfant soit malheureux, soit parce qu'il est forcé de faire comme tout le monde et donc d'aller dans des hagwon et de maintenir un certain niveau, même si on lui dit que c'est pas grave. Mais s'il est la risée de sa classe parce que il fait pas les mêmes efforts que les autres, et voilà, c'est ça. Ouais. Ben c'est lui qui va être malheureux et bon voilà quoi, c'est pas autant être dans un pays où tous les enfants ont le droit d'avoir d'avoir une certaine liberté. Où tous les enfants ont la même liberté, on va dire, voilà.
Très bien. Ah, je comprends. Non, je comprends totalement le point de vue. C'est pas faux du tout. C'est pas faux du tout. Petite question, bon, alors j'ai une partie de la réponse, notamment pour la partie professionnelle, parce que est-ce que pour toi maîtriser le coréen est essentiel pour s'implanter en Corée sur la partie pro, vu ton métier?
Oui,
j'attends une certaine réponse.
Effectivement, avec mon métier, oui, mais après, il y a des métiers où il y a plein d'étrangers qui s'adaptent super bien à la Corée, qui sont ici depuis un paquet d'années et qui parlent pas vraiment coréen. Donc, je pense que c'est pas essentiel. Non, je pense que c'est pas essentiel, mais Mais moi, je trouve que ça serait quand même mieux d'apprendre un minimum, quoi. Voilà. Mmh. Mais ça, c'est ma façon de penser. Parce que là, je ne sais pas dans quel pays on va se retrouver. Mais peu importe le pays où on va se retrouver, si on ne parle pas la langue, on s'est mis d'accord avec mon mari, on a dit, ben, on apprendra. Même si on ne devient pas bilingue, mais on voudra apprendre parce que ça sera notre manière à nous d'essayer de nous adapter et de remercier en quelque sorte le pays qui nous accueille, quoi.
Oui, et puis ne serait-ce que pour faciliter la chose, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus toujours utiliser l'anglais si tu vas dans un lieu un peu fin fond, reculé, que ce soit de la France, oui. De la Corée ou un peu n'importe quel pays, ça ne va pas forcément parler anglais, quoi.
Oui, c'est vrai, mais bon, il y en a qui y arrivent, hein. J'ai rencontré des gens. Mais après, c'est quand même plus des expatriés que des. Parce que moi, je me considère pas vraiment comme une expatriée. Enfin, je suis pas une expatriée, en fait, je suis une immigrée. Donc, je pense que pour les expatriés, c'est différent. Envoyé par la boîte, même si ça fait des années, même pour certains 10 ans qu'ils sont là, il y a un certain cercle où la plupart des gens avec qui ils sont français aussi. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de faire l'effort d'aller ailleurs, ils viennent pas pour l'amour du pays, ils viennent pour le boulot. Donc c'est plein de choses comme ça qui font que c'est possible quand même. Mais oui, effectivement, c'est pas de l'intégration pure et dure, quoi. C'est implanté, mais pas intégré. Voilà.
Non, c'est vrai. Non, c'est très bonne remarque. Implanté, pas intégré. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Parce qu'on arrive du coup sur la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un message à transmettre? N'importe quoi.
Je vois que malgré le stress des visas, malgré les difficultés de l'internet coréen et des noms à rallonge qu'on est obligé d'écrire partout, qu'il faut rester optimiste et que je pense que s'adapter dans une culture, c'est juste la prendre comme elle vient et puis voilà, quoi. De pas, en fait, il faut, en fait, je crois que la difficulté qu'on a en tant que français beaucoup, c'est de le voir avec nos yeux de français, c'est-à-dire avec notre culture à nous, et donc on a tendance à trouver des choses, comme je disais tout à l'heure, cette idée de logique coréenne, logique française, parce que je suis française et donc j'arrive pas à enlever ce filtre de mes yeux. Mais en réalité, si on arrivait un petit peu à oublier ça, on s'adapterait encore plus facilement, je crois. Donc voilà, rester optimiste et laisser les choses venir comme elles viennent. Et les difficultés, malheureusement, tout le monde en vit. Parce que je dis que tout se passe bien de mon côté, mais j'en ai eu des difficultés, surtout pendant le Covid, mais je suis pas la seule, donc voilà. Et pas se laisser abattre, et quand il y a un truc négatif qui arrive derrière, normalement, c'est que ça devrait être mieux. C'est toujours mieux derrière. Donc voilà, pour tous les immigrés comme moi.
Est-ce que tu veux en parler un peu de tes difficultés que tu as eues pendant le Covid ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça n'a pas été facile parce que même si on n'a pas été confinés ici, pour ceux qui écouteraient et qui sont pas en Corée, mais à mon avis, la plupart de tes, peut-être de tes
c'est
auditeurs...
C'est à peu près 50-50.
Ouais, mais alors pour ceux qui sont en France et qui ne le savent pas, parce que des fois, j'ai beaucoup d'amis français qui ont tendance à croire que nous aussi, on a été confinés. On n'a jamais été confinés ici. Et ce qui est une bonne chose, c'est vrai, mais en même temps, il y avait quand même cette peur du virus qui faisait que la plupart des gens ne sortaient pas ou très peu, et moi j'en faisais partie, pas parce que j'avais peur du virus, mais plus parce que j'avais peur d'attraper le virus et qu'on me pointe du doigt comme étant l'étrangère du quartier qui a attrapé le virus, parce qu'à un moment donné c'était vraiment ça quand même, c'était un peu compliqué, et donc j'ai eu toute cette phase où je suis restée chez moi. On vit dans 24 mètres carrés tous les deux depuis 4 ans, parce que lui est étudiant, moi j'étais étudiante, et puis qu'aujourd'hui, je travaille à la maison et qu'on n'a pas déménagé. Et donc c'est très petit. Et je n'ai vu que cet appartement pendant très longtemps où je sortais à peine. Et pas possibilité de voir ma famille comme tout le monde, évidemment. Mais mon père est décédé, ma grand-mère est décédée, j'ai pas pu aller en France. Ma sœur s'est mariée, j'ai pas pu aller à son mariage. Voilà, il y a beaucoup beaucoup d'événements qui se sont déroulés en France auxquels j'ai pas pu assister, positifs comme négatifs, mais dans l'ensemble ça m'a fait un gros coup au moral, tout ça accumulé a fait que je suis rentrée dans une phase un petit peu dépressive. Et aujourd'hui, ça va. Beaucoup mieux. Mais j'ai eu cette petite phase de cafard, quoi. Et ça n'a pas été facile. Mais comme dit, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, mais je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Donc ça va, ça se passe bien maintenant. Et voilà, et maintenant j'essaie de rester optimiste et de garder que le positif. Donc aujourd'hui, je me concentre sur ma cérémonie de mariage et sur, j'espère, un futur pays qui nous attend. Et voilà, je suis très. J'ai beaucoup de. Comment dire ? J'ai très hâte, voilà. J'ai très hâte.
Ok. Eh ben, te souhaitant le meilleur pour l'avenir, je te remercie beaucoup d'avoir passé cette 1h35 à discuter avec moi. Merci beaucoup d'avoir partagé un peu ton histoire, tout simplement, sur Séoul Connect.
Merci à toi de m'avoir écouté pendant tout ce temps, surtout.
Pas de souci. Et à bientôt.
À bientôt.